Voilà, donc c'est une joie en tout cas de me retrouver avec vous et puis de pouvoir partager la parole de Dieu. Je vois qu'ici, il n'y a pas d'horloge, donc ça veut dire que on a tout le temps que l'on souhaite. Voilà, je vous invite donc à ouvrir votre Bible en Matthieu. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, là-bas à Saint-Denis. Et bon, je n'ai pas réussi à me détacher de Matthieu, hein. Donc Matthieu chapitre 5 et les derniers versets de Matthieu chapitre 5. Mais je vais commencer avec une question ici que je vous pose. Est-ce que vous aimez votre prochain? Est-ce que vous aimez votre prochain? C'est une question à laquelle il faut essayer de répondre. Ou comment est-ce que vous estimez aimer votre prochain? Je crois que si on pose cette question de manière générale aux gens, ils diront, ben, je crois quand même que j'aime mon prochain. En tout cas, je ne le hais pas. Hein. Et forcément, ça veut dire que quelque part, je l'aime. Nous avons chanté tout à l'heure que nous sommes citoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Et le thème hein, de ces chapitres 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu, c'est de parler justement des citoyens des cieux et de la qualité de la vie que doivent avoir ces citoyens. Donc en Matthieu, chapitre 5, versets 43 jusqu'à 48, il est question de l'amour du prochain. Je vais lire ces passages avec vous. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43 jusqu'à 48, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, je ne sais pas quelle a été votre réponse à la question avant la lecture du texte. Moi, après la lecture du texte, ma réponse à l'amour du prochain, elle change. Et quand je regarde ce que le Seigneur Jésus dit ici de l'amour du prochain, le thème de cette, le titre, si vous voulez, de cette étude, de ce message ce matin, c'est le disciple et l'amour du prochain. Le disciple et l'amour du prochain. Vous pouvez mettre aussi le citoyen, comme on a chanté, le citoyen du royaume et l'amour du prochain. Vous vous souvenez certainement que dans tous ces passages qui vont donc de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 27 jusqu'au verset 48, il y a une succession on appelle ça d'antithèse que Jésus avance ici pour dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et le Seigneur Jésus n'est pas en train d'opposer l'enseignement de l'Ancien Testament à son propre enseignement, mais surtout l'interprétation que faisaient les scribes et les pharisiens de l'enseignement de l'Ancien Testament et la juste interprétation de l'enseignement de la loi de Dieu. Donc ce que Jésus dit, c'est, il a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir cette loi. Et donc il exprime vraiment quel est l'esprit de cette loi, et notamment concernant l'amour du prochain. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Nulle part dans la Bible, on ne trouve tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Même dans l'Ancien Testament, il est beaucoup question d'avoir une bonne attitude à l'égard des ennemis. Mais les pharisiens et les scribes avaient cette fâcheuse tendance, habitude à toujours circonscrire la loi de Dieu. Elle est tellement élevée qu'ils cherchent à la circonscrire dans ce qu'ils étaient capables de faire naturellement. Donc, ils vont chercher à rabaisser un peu les éléments de la loi de Dieu et puis pour pouvoir l'observer. Ainsi, pour pouvoir aimer le prochain, ils ont réduit la notion de prochain. Le prochain, c'est le juif. Hein. C'est celui qui est tout proche d'eux. Et puis, ceux qui sont en dehors de ce peuple, eh bien, ce ne sont pas les prochains. Donc, si la loi dit « tu aimeras ton prochain », et si le prochain, c'est ceux qui sont définis, hein, comme on vient de le dire, eh bien, on peut estimer que l'on peut haïr ceux qui ne sont pas le prochain. Donc, on peut haïr ceux qui sont les ennemis, les autres nations. Et les Samaritains, par exemple, la Bible nous dit que les Samaritains n'avaient pas de bonnes relations avec les Juifs. Et c'était des ennemis et ils étaient haïs de la part des Juifs, ne faisaient pas partie de ceux qui étaient considérés comme leurs prochains. D'où cette parabole que Jésus donne, hein, qu'on appelle la parabole du bon Samaritain, qui traite exactement ce thème. Mais Jésus donne ici à la notion du prochain un sens qu'il doit avoir véritablement. Il dit que le prochain s'étend jusqu'aux ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Moi, je vous dis « aimez vos ennemis ». Ce n'est pas deux commandements différents que Jésus donne. Il ne dit pas d'un côté « il faut aimer son prochain » et puis il faut aussi essayer d'aimer son ennemi. Non, il dit que l'amour du prochain, c'est en puissance la capacité à aimer aussi l'ennemi. L'ennemi fait partie du prochain. Et quand Dieu demande d'aimer son prochain, il demande d'aller jusqu'à aimer aussi son ennemi. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est aimons-nous nos ennemis ? On avait un petit peu, peut-être qu'on pensait qu'on aimait nos prochains, mais si maintenant le prochain c'est l'ennemi, alors est-ce que vraiment nous aimons nos ennemis ? Qui aime en général son ennemi ? Peut-être que vous dites, mais j'ai pas d'ennemis, hein. Est-ce que j'ai des ennemis ? Dans certains pays, je crois que les chrétiens ont vraiment des ennemis, hein, parce qu'ils sont persécutés pour leur foi et ils rencontrent vraiment beaucoup d'opposition et même des sévices corporels de la part de leurs ennemis. Ce n'est pas le cas dans notre société, en tout cas pas en France. Mais est-ce que nous n'avons pas d'ennemis pour autant ? Le sens du mot « ennemi », c'est tout ce qui nous est hostile. Tout ce qui nous est hostile. Alors parfois, dans notre propre foyer, nous rencontrons de l'hostilité. Et donc, nous pouvons avoir des ennemis au sein même de notre propre foyer. Donc, cette hostilité peut provenir de différents secteurs, le travail, l'église même parfois, et puis aussi le foyer. Jésus d'ailleurs disait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il dit « l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison ». Quand l'évangile parfois pénètre dans un foyer, eh bien, les personnes même de ce foyer se transforment parfois en ennemis. Parfois, au sein même de l'Église, on peut avoir aussi des ennemis, c'est-à-dire quand on le prend dans le sens d'hostilité, peut-être des gens qui nous contrarient, hein, qui nous critiquent. Et donc, l'hostilité peut se présenter aussi sous différentes formes, la critique peut-être sur notre travail, sur notre personne ou sur notre origine ethnique parfois. Et on peut avoir des gens qui ne nous aiment pas parce que, voilà, nous sommes étrangers, hein. À l'époque des élections, là, dans lesquelles nous sommes, et on parle beaucoup des étrangers, de préférence nationale, et parfois, il y a des gens qui disent « je n'aime pas telle catégorie de la population », et cela, c'est de déclarer que l'on a des ennemis. Parfois, en tant que chrétien même, on peut être animé de ce sentiment-là. Et donc, en commandant « aimez vos ennemis », Jésus enseigne que notre amour doit s'étendre vraiment à tous les hommes. Et naturellement, les ennemis sont les dernières personnes, je crois, auxquelles nous aimerions manifester de l'amour. Et si nous sommes capables d'aimer nos ennemis, nous sommes capables d'aimer tout le monde. Nous disons parfois, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime des frères et sœurs dans l'Église, les frères et sœurs de l'Église. Mais cet amour-là ne trouve sa réalité que si il peut s'étendre, vraiment, sa puissance, sa force, que s'il peut s'étendre à l'amour de l'ennemi. Tant que je ne suis pas capable d'aimer l'ennemi, je ne suis pas certain que j'aime réellement. Et c'est ce que nous voulons voir un peu ce matin. Le seul moyen d'aimer véritablement, dit Jésus ici, et d'aimer son prochain, c'est d'aimer son ennemi. Le seul moyen d'aimer véritablement son prochain, c'est d'aimer son ennemi. Alors, premièrement, on voudrait voir ici comment doit se manifester, quelle est la manifestation de l'amour qui est exigé ici de la part de Jésus. Eh bien, premièrement, cet amour se manifeste par déjà une soumission et un engagement de la volonté. C'est un commandement, l'amour. Ce n'est pas ici une question de sentiment, de sensation ni d'appréciation. L'amour est un commandement auquel la volonté doit se soumettre et dans lequel il doit s'engager. Il est facile, comme les pharisiens faisaient, de faire des catégories et puis d'aimer cette catégorie. On aime ce qu'on apprécie, ceux qui nous veulent du bien, ceux qui nous ont déjà dit des choses agréables sur nous-mêmes. Là, ces personnes-là, on les aime. Mais aimer comme cela, ce n'est pas aimer véritablement. Aimer, c'est un commandement. Aimer, ce n'est pas une question de sensation, de feeling, d'affinité, de sentiment pour les uns et pour les autres. C'est vraiment un commandement de Dieu auquel on doit se soumettre. Donc, cette manifestation d'amour, elle se manifeste par la soumission à l'engagement à la volonté de Dieu, mais aussi, et c'est ce qui est très important ici, par la recherche du bien de l'ennemi. Aimer, dit Jésus, doit se manifester par la recherche du bien de notre ennemi. Comment est-ce que je dois aimer en cherchant le bien de mon ennemi? L'amour se manifeste toujours par des actes. L'apôtre Jean disait, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc l'amour se manifeste toujours par des actes. Dieu est celui qui a prouvé son amour par des actes. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et puis en Romains 5, il est dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, eh bien, Christ est mort pour nous. Dieu apporte des preuves à son amour et par des actes concrets et précis. Et ici, la manifestation de l'amour du prochain qui est exigé par Dieu pour les citoyens du royaume, pour les disciples, consiste à rechercher le bien de l'ennemi. Il dit, moi je vous dis, écoutez ça, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Notons que l'attitude que Jésus exige ici n'est pas une attitude passive, mais bien active dans l'amour. Et l'amour du prochain exige quelque chose d'actif ici. Il ne dit pas simplement de ne pas avoir de la haine pour vos ennemis. Il ne dit pas ne haïssez pas vos ennemis. Il dit aimez vos ennemis. Ce n'est pas la même chose. Vous vous rappelez des attentats qu'il y a eu le 13 novembre en 2015. J'ai lu sur Internet un article écrit par un homme qui a eu sa femme qui a été tuée, donc qui a reçu plusieurs balles dans la salle du Bataclan à ce propos. Et il a écrit un article dont le titre est, vous avez peut-être entendu cela, « Vous n'aurez pas ma haine ».« Vous n'aurez pas ma haine ». Alors j'ai lu un peu l'article et il explique... humainement, c'est bien ce qu'il dit. Il explique que voilà, tout ça, c'est fait pour susciter la haine, mais il dit, mais ma haine, je ne vais pas vous la donner, vous ne l'aurez pas. Et je trouve que humainement, c'est respectable. Mais ce que Jésus dit, c'est beaucoup plus que cela. Il ne dit pas de ne pas de restreindre sa haine, de la contenir. Il dit d'aimer. Vous n'aurez pas ma haine, ça ne veut pas dire vous aurez mon amour. Cet homme n'a pas dit vous aurez mon amour. Il a réfréné la haine qui pourrait. Il essaye en tout cas de réfréner cette haine, et c'est louable en soi, mais ce que Jésus dit est beaucoup plus que cela. Il dit, vous devez aimer vos ennemis. Pas simplement retenir la haine, mais libérer votre amour, afin qu'il se répande sur vos ennemis. Et donc, il incite ici, il pousse le disciple à aller au-delà de cette capacité simplement à ne pas haïr. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ils doivent rechercher le bien matériel des ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. L'apôtre Paul, reprenant les paroles de Proverbe, disait la même chose en Romains 12, verset 20. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et c'est quelque chose de très difficile, car la tendance naturelle de notre cœur est de vouloir le mal de l'ennemi. Naturellement, nous désirons le mal de l'ennemi. Nous désirons au moins qu'il souffre autant que nous estimons avoir souffert. Et souvent, nous donnons plus que ce que nous avons reçu. Ici, le proverbe 27-17 dit « Ne te réjouis pas à la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » C'est parce que naturellement, c'est ainsi que nous réagissons. Nous sommes quand même quelque part secrètement contents quand il y arrive quelque chose de pas heureux à celui qui ne nous a pas fait du bien. Secrètement, c'est ça que l'on a dans le cœur. Dans les familles, dans les foyers, entre frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Entre mari et femme, c'est comme ça que ça se passe. Je le dis parce que je le sais dans mon propre cœur. Et ça n'est pas ce que Jésus nous commande ici. Quand Dieu demande à Salomon, vous vous rappelez, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon demande la sagesse pour discerner et la gestion, pour savoir gérer le peuple. Et Dieu lui dit, parce que, il dit un certain nombre de choses, et puis parmi les choses, il dit, parce que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, l'honneur, ni la mort de tes ennemis. Et Dieu est en train de dire que la prière naturelle de l'homme, c'est que Dieu écarte ses ennemis, qu'il les fasse disparaître. C'est ça que naturellement un cœur aurait demandé. Et Dieu loue Dieu. La Bible dit que Dieu a la prière de Salomon a plu à Dieu parce qu'il a demandé quelque chose qui n'est pas quelque chose de naturel. Il a demandé de la sagesse. Il n'a pas souhaité la mort de son ennemi. Donc ici Jésus dit que les difficultés même de nos ennemis devraient être des tremplins pour nous pousser à leur faire du bien. Quand on est un disciple de Christ, on doit aimer son ennemi au point, pas de manière passive, de manière active, au point de rechercher son bien et même son bien matériel, même venir et subvenir à ses besoins primaires comme manger et comme boire. Mais plus que cela, on doit rechercher aussi son bien spirituel. Parce qu'il dit ici, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus dit que le disciple doit aimer son ennemi au point d'intercéder pour lui. L'attitude hostile de l'ennemi doit faire prendre conscience au disciple que cet homme ou cette femme a besoin de Christ. Que sa réaction est peut-être parce qu'elle ne connaît pas Christ. Ou si c'est un frère ou une sœur qui est contre nous, peut-être il a besoin d'être plus dans une relation plus intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je dois voir non pas le mal ou le traitement mauvais que je reçois, mais le besoin de celui qui est en face, c'est le besoin spécifique de l'ennemi. Il ne connaît pas l'amour de Dieu, il n'a pas expérimenté le pardon qui libère. Son âme a besoin peut-être du salut de Dieu. Alors le disciple, à ce moment-là, il est préoccupé, non pas par lui-même, non pas par ce qu'il ressent, mais par le besoin de celui qui est en face. On peut penser à Étienne, lorsqu'il était lapidé. Vous vous rappelez, la Bible dit qu'il lapidait Étienne qui priait. C'est extraordinaire, ça. Il lapidait Étienne, et pendant que Étienne est lapidé, Étienne prie, et il disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Peut-être des gens qui diraient, « Maudit soyez-vous, hein ! Que Dieu vous emporte, hein !» Non, Étienne, sous les coups des pierres de ses ennemis, il prie, il demande à Dieu de leur pardonner.